Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal grâce à Mzati. Coupure d'électricité dans la ville de Kalemie au Tanganyika à la suite d'une panne survenue à la centrale hydroélectrique de Bendera. Conséquence, les activités tournent au ralenti et l'eau potable de la régie des eaux s'est fait rare. La journée internationale des casquets bleus est célébrée ce 29 mai. À cette occasion, le gouverneur du Nord Kivu, le général Évariste Kakule-Somo, rend hommage aux casquets bleus de la MONUSCO pour leur rôle dans la quête des stabilités dans l'est de la RDC. Vous l'entendrez. Réforme des finances publiques en RDC, enjeux avancés et appui technique au niveau provincial. Nous en parlons avec Godefroy Misenga Milabio, secrétaire exécutif du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques Coref en SIG, en mission officielle de la province du Maniema pour accompagner la mise en œuvre de cette réforme. Bonjour à tous. La ville de Kalemie est plongée dans le noir depuis vendredi dernier. La SNEL annonce qu'une panne est survenue à la centrale hydroélectrique de Bendera. Cette coupure du courant électrique affecte plusieurs secteurs de la vie de la population. Les activités tournent au ralenti dans la ville de Kalemie et l'eau potable de la régie des eaux devient une denrée rare. Paul Mounanga.
L'interruption prolongée du courant électrique paralyse la desserte en eau potable de la régie des eaux dans la ville de Kalemie. Conséquence, plusieurs habitants recourent à l'eau du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga. Cette situation intervient au moment où la ville de Kalemie connaît une recrudescence de l'épidémie de choléra. Nathan Mugisho est le président de l'association Umoja Ninguvu.
Ce sont des bidons jaunes qui se font transporter sur les têtes et que les gens qui partent sur les lacs pour puiser, les autres pour lessiver, les autres pour faire la vaisselle, tout ça, ça doit créer des maladies.
Le manque du courant électrique paralyse plusieurs activités. C'est le cas de certains vendeurs de boissons fraîches qui ne savent plus tourner leurs activités. Témoignage.
Pendant cette période de coupure, les clients rentrent seulement. Ils ont besoin des choses qui sont encore fraîches, mais ils ne sont pas satisfaits. Et nous, nous sommes déçus. S'il y a le courant, nous arrivons jusqu'à 4 ou 5 box d'énergie. Mais actuellement, nous n'arrivons même pas à un box à cause du courant.
La plupart des salons de coiffure, des ateliers de soudure et de menuiserie, des moulins et d'autres activités sont à l'arrêt. Recharger un téléphone portable devient un exploit pendant cette période dans la ville de Kalemie. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
La tenue du cadre des concertations interprovinciales en cours à Isiro dans la province du Haut-Uele entre les quatre provinces issues de l'espace Grand Oriental est constitutionnelle. Elle se fonde sur l'article 199 de la Constitution qui stipule que deux ou plusieurs provinces peuvent d'un commun accord créer un cadre d'harmonisation et de coordination de leurs politiques respectives et gérer en commun certains services dont les attributions portent sur les matières de leurs compétences. Cette précision a été donnée hier par le gouverneur de la province du Haut-Uele à l'occasion de l'ouverture des travaux de la première édition de ces assises. Jean Bakomito Gambou donne la quintessence de ce forum dans cet extrait proposé par Jacques Moukonkole.
À travers ces cadres de concertation, nous refusons l'isolement dans les deux. Nous choisissons l'unité dans l'action, la synergie dans la solution et la fraternité dans le progrès. Nous avons aujourd'hui les devoirs historiques de concevoir ensemble des réponses régionales cohérentes, d'harmoniser nos politiques publiques, d'engager des réformes conjointes et de faire de nos provinces des pôles de croissance interconnectés plutôt que des entités administratives isolées. Nous exprimons notre volonté de mutualiser nos efforts dans les secteurs clés comme la sécurité, les infrastructures, l'éducation, la santé et l'agriculture. Parler d'une seule voix auprès du gouvernement central et des partenaires techniques et financiers pour faire avancer nos priorités communes et surtout de mettre nos populations au centre de toute notre action. Ce cadre n'est donc pas un simple exercice administratif, plutôt un engagement de solidarité, une dynamique de transformation collective et un pacte de confiance entre provinces sœurs.
Notez que la clôture des travaux de ces cadres interprovinciaux est prévue ce soir. Ici, à Kinshasa, les travaux de démolition et de construction anarchique se poursuivent. Ils vont bientôt s'étendre sur la baie d'Engalima. On en veut pour preuve la descente sur place hier d'une délégation composée du vice-premier ministre de l'Intérieur, du ministre de la ministre des Affaires foncières et c'est lui délégué à l'urbanisme ainsi que du gouverneur de la ville de Kinshasa. Ils sont allés préciser la cartographie de la zone à démolir dans les prochains jours Pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ces travaux de démolition et de construction anarchique permettront d'éviter des inondations dans l'avenir. On écoute Jacques Chabani dans cet extrait choisi pour nous par Élise Kavira.
La délimitation des zones à détruire, c'est principalement ce que nous sommes venus faire aujourd'hui avec les deux collègues et la ville de Kinshasa et les différents services. Donc nous avons identifié les zones à détruire. La cartographie va être corrigée selon ce qui a été identifié aujourd'hui pour permettre à ce que nous fassions un rapport en Conseil des ministres, mais à ce que nous puissions actionner les opérations de destruction qui vont très bientôt commencer et qui seront précédées nécessairement de communications utiles pour les populations riveraines et ceux qui occupent les lieux. Donc c'est pour dire que très bientôt, de ce côté-ci, sur la baie Ngaliema, nous allons entamer les opérations de destruction des constructions anarchiques. C'est par souci et nécessité de protection de nos populations. Je crois que nous avons tous eu malheureusement l'occasion de vivre il y a quelques mois des inondations extrêmement graves et dangereuses qui ont endeuillé la ville de Kinshasa.
Par ailleurs, les services connexes de la province d'Ikouilou, dont les inspections provinciales de l'agriculture, pêche et élevage et développement rural, sont désormais dotés chacun d'une Jeep, dont du programme national de développement agricole PANDA, qui vise la modernisation du secteur agricole avec les outils modernes. Cela grâce à l'appui financier de la Banque mondiale pour renforcer les activités agricoles au Kwilu et améliorer la production de la population. C'est le gouverneur de la province, Philippe Akamituna Ndolo, qui a procédé mardi à la remise de ses trois véhicules de marque Land Cruiser à l'esplanade gouvernorat à Bandundu. Irène Bomalozolo.
D'après la ministre provinciale sortante de l'agriculture du Kwilu, ces engins roulants sont dotés à la province par le PNDA, Programme national de développement agricole. Cette dotation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets pour le renforcement des activités agricoles dans la province du Kwilu. Marie-Thérèse Manessa.
Le PNDA œuvre dans notre province. Ils ont un mandat de 15 ans pour aider la population dans l'amélioration de la production pour que nous passions de la phase de l'agriculture de survie à une agriculture purement mécanisée qui va permettre non seulement de manger, mais de commercialiser.
Pour sa part, le gouverneur de province Philippe Akamituna, qui a remis officiellement ses véhicules aux bénéficiaires, les a appelés à une utilisation rationnelle.
Les véhicules qu'on vous donne, utilisez-les en bon père de famille. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on commence à voir les véhicules en train de transporter des poissons, des maniocs. Veillez vraiment à l'utilisation rationnelle et vous devez avoir un carnet de bord.
Précisons qu'à part ces trois véhicules, des autres ont été remis au Service national des semences Senasem à Kikwit et aussi à l'INERA, qui est le centre de recherche agricole situé à Kiyaka, ajoute Marie-Thérèse Manessa. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Nous l'avons dit dans les titres, ce 29 mai marque la journée internationale des casquets bleus des Nations Unies, une occasion dédiée à honorer l'engagement, le courage et le sacrifice des femmes et des hommes mobilisés dans les opérations de paix à travers le monde, ainsi qu'à saluer la mémoire de ceux tombés sous les drapeaux onusiens. À cette occasion, le gouverneur du Nord Kivu rend hommage aux casquets bleus de la MONUSCO pour leur rôle dans la quête de stabilité dans l'Est de la RDC. Selon le général Évariste Kakule Somo, plusieurs d'entre eux ont payé de leur vie lors d'opérations conjointes avec les FARDC ou dans le cadre de la protection des civils. Ils plaident pour une synergie renforcée entre le gouvernement, les Nations Unies et les populations locales afin de parvenir à une paix durable dans la région. Ils s'expriment au téléphone de Martial Papi Mukeba.
Je rends au nom du gouvernement provincial du Nord Kivu et sa population un hommage mérité à tous ces hommes et femmes, bien sûr, qui, venus de divers pays du monde, ont consenti des sacrifices pour la paix dans notre pays. Le Nord Kivu, éprouvé par les décennies de violence, a vu de près cet engagement des casques bleus de la MONUSCO aux côtés de nos FARDC et de la police. À Beni, par exemple, ils se sont engagés dans la lutte contre les ADF, souvent au prix de leur propre vie, et certains sont tombés des opérations conjointes avec nos forces. Dernièrement à Goma, on les a vus tomber aux côtés des nôtres en tentant de protéger la population et la vie lors de l'avancée des ennemis de la République. Nous reconnaissons que malgré les efforts considérables, la paix n'est pas encore totalement restaurée sur l'ensemble du territoire. Mais nous savons aussi que chaque village sécurisé, chaque vie épargnée, chaque espoir ravivé porte la marque de ces efforts conjoints. Les efforts doivent continuer entre les Nations Unies et les autorités congolaises et les populations elles-mêmes pour restaurer définitivement la paix dans l'est du pays.
Et puis, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie, Kisangani Mouvement de Libération, RCD-KML, tire la sonnette d'alarme face à la dégradation sécuritaire en RDC. Dans un communiqué publié hier, à l'issue d'une réunion extraordinaire de son Conseil national à Kinshasa, le parti dirigé par les députés et anciens ministres Antipas Mbusa Nyamwisi plaide pour un dialogue national sans exclusion afin de sauver le pays. Martial Papi Mukeba nous en dit plus.
Dans ce communiqué, le RCDKML s'inquiète de ce qu'il qualifie de basculement progressif vers un chaos généralisé en RDC et déplore l'enlisement de la crise sécuritaire qui menace l'unité du pays avec un risque de balkanisation. Le parti rappelle que depuis 1996, les violences armées n'ont apporté aucune solution durable, mais ont au contraire alimenté un cycle de revanche et d'instabilité. Il dénonce la montée des discours populistes, identitaires et extrémistes, jugés sans issue face aux défis actuels. Le RCDKML appelle à un sursaut patriotique autour des valeurs républicaines et soutient une approche inclusive qui tienne compte des efforts en cours de l'Union africaine, de la SADC, de l'EAC, ainsi que des initiatives de Doha, Washington, la CENCO et l'ECC. En réponse à la situation, les partis proposent un dialogue national rassemblant toutes les forces sociales et politiques du pays, avec pour priorité la restauration de l'intégrité territoriale, la cohésion nationale, la réponse aux urgences humanitaires et l'élaboration d'un mécanisme consensuel de gouvernance apaisée en vue d'élections crédibles. Béni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Dans l'actualité, sachez aussi que le commandant de la garde républicaine, JR, le général-major Ephraim Kabi Kiriza, appelle ses troupes à la vigilance pour déjouer toute manipulation. C'était au cours d'une causerie morale suivie d'une parade militaire aux différentes unités combattantes de la garde républicaine tenue hier à la place de la loyauté au camp militaire colonel Tchatchi, ici à Kinshasa. Nous sommes apolitiques, rappelle-t-il à ses hommes. Celui qui aime la patrie ne peut jamais comploter pour la balkanisation de ses pays. Il ne peut pas être acheté par des politiciens véreux en mal de positionnement, martèle le commandant JR. Peu avant d'y rappeler, la devise des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC n'est jamais trahir le Congo. Pour le général-major Ephraim Kabi Kiriza, le salaire de la trahison, c'est la mort parce que la patrie ne pardonne jamais le traître. Cette autre nouvelle, l'antenne de l'ONG-CRDH, Convention pour les droits de l'homme dans le territoire de Mambasa, alerte les autorités sur la présence d'un groupe de pygmées armés dans le groupement Bakaheku, chefferie de Babila Babombi dans la province de l'Ituri. Le point focal de cette structure indique que ces hommes armés sont responsables de plusieurs violations des droits humains dans cette zone. Rams Malikidogo révèle que leurs agissements ont conduit la semaine dernière à une psychose dans la zone, laissant croire à la population une incursion des ADF. Cet acteur de la société civile appelle les autorités politico-administratives de la province de l'Ituri à trouver une issue à cette crise avant que le pire n'arrive. Il est joint par Ronelin Tibonera.
Ces derniers ne cessent de troubler l'inquiétude de la population dans cette partie de l'Ituri. Le mercredi passé, ces derniers ont crépité plusieurs coups de balle au niveau de Boruho, toujours dans le même groupement où la population était débandée, croyant à une nouvelle incursion. Pour rappel, le 22 février de cette année, ils ont tué un jeune d'une vingtaine d'années. Le 9 mars, ils se sont affrontés avec les miliciens IPLC dans le village de Bapwakila, où deux d'entre eux ont été capturés par cette équipe de IPLC. Et jusqu'à présent, on ne connaît pas leur sort. Selon les informations en notre possession, ces pygmées s'étaient déjà enrôlés dans l'équipe de IPLC et ils ont signé défection. Ils sont partis avec des armes. Alors, nous demandons vraiment les autorités de pouvoir s'y impliquer et de pouvoir neutraliser cette équipe de miliciens qui veut troubler encore l'inquiétude de la population dans cette partie.
Actualité internationale.
Au Mali, on est toujours sans nouvelles des trois personnalités politiques enlevées il y a trois semaines par la sécurité d'État. Alassane Abba et Abdoul Karim Traoré du parti CODEM et de la coalition Jigia Koura et El Bachir Thiam du parti Yelema ont été enlevés entre le 8 et le 11 mai dernier. Ils sont détenus depuis dans un lieu secret. Leurs proches sont dans l'angoisse. Ces enlèvements et la dissolution des organisations politiques du pays le 13 mai ont largement étouffé le mouvement pro-démocratie qui avait éclos au début du mois. Malgré tout, ses partisans continuent de prendre des initiatives.
L'invité.
C'est Godefroy Misenga Milabio, secrétaire exécutif du comité de pilotage et d'orientation de la réforme et des finances publiques, COREF. Cette équipe du COREF est au Maniema pour appuyer la province dans la réforme des finances publiques sur demande du gouverneur du Maniema. Godefroy Misenga Milabio s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Godefroy Misenga Milabio, bonjour.
Bonjour, madame Florence Kizabunga.
Le projet encore dans sa version initiale couvrait uniquement les quatre provinces du Grand Kasaï. Aujourd'hui, ce projet va s'élargir à trois autres provinces, dont le Maniema. Pourquoi les choix du Maniema?
Nous sommes ici à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, pour échanger avec les autorités provinciales sur la porte d'opportunité ouverte par la Banque mondiale à travers ces projets. Le projet d'amélioration du recouvrement des recettes de gestion de pense en acronyme projet encore, c'est un projet dans le secteur de la gouvernance, financé par la Banque mondiale. Après que nous ayons discuté dans le cadre de pourparlers préliminaires avec le gouverneur lors de son séjour à Kinshasa, il a fait la requête qu'il a adressée au COREF, au ministre des Finances, et il a saisi le ministre des Finances pour qu'il bénéficie également de l'accompagnement du projet à l'instar des autres provinces du Grand Kasaï. Ce projet va nous permettre d'améliorer la gestion des finances publiques que nous on considère comme étant les socles du développement. Et on ne pouvait pas faire autrement que répondre à son appel. Voilà pourquoi nous sommes venus échanger avec lui.
Concrètement, à quoi va servir l'appui du projet encore dans les maniements ou encore à quoi peut s'attendre la population?
Ce qui est plus important d'abord, je l'ai dit au début, nous sommes messagers de la bonne nouvelle et que ces projets ici, c'est une opportunité que les autorités provinciales, toute la population du Maniema, les deux doivent saisir parce que ces projets vont aider le Maniema à renforcer la gouvernance en matière de gestion des finances publiques. Comme vous le savez, c'est une province où il y a un potentiel fiscal important, mais la province a du mal à recouvrer le recette, à améliorer son potentiel. Le niveau de recouvrement de recette est toujours largement en deçà du potentiel. La province du Maniema, c'est une province minière, c'est un grenier agricole. C'est une province qui peut voir naître beaucoup d'activités. Et pour ce faire, nous allons accompagner les efforts de la province pour améliorer ses capacités à mobiliser les recettes propres. Et deuxième domaine dans lequel on va intervenir, c'est améliorer la gestion des dépenses publiques, parce qu'on estime qu'une fois que les recettes augmentent, les recettes propres augmentant, ça peut financer le service social de base. Cela va donner l'occasion peut-être de créer les conditions pour attirer d'autres investissements.
Pourquoi alors COREF n'a jamais ouvert ses bureaux au Maniema depuis son projet Profit Congo?
Comme vous le savez, nous avions la cartographie d'appui des bailleurs de fonds qui accompagne la République depuis la reprise de la coopération structurelle en 2001. Lorsqu'on a repris la coopération, les partenaires de développement sont revenus au pays et dans le cadre de différents projets et programmes, ils se sont répartis les provinces. Bon, c'est vrai qu'ils ont, par orientation du gouvernement, ils ont fait la répartition des provinces. Et à l'époque, la Banque mondiale, à travers ses programmes et projets, couvrait 21 provinces et la Banque africaine de développement couvrait le Maniema, les Tchopo et le Congo central. La Banque mondiale n'a jamais financé le Maniema. C'est donc aujourd'hui que nous voulons, pour la première fois, dans le domaine de la gouvernance, étendre les activités de la Banque mondiale dans la province du Maniema à travers le projet encore.
Alors, qu'est-ce que vous attendez des institutions provinciales?
Aucun projet ne peut réussir lorsqu'il n'y a pas un portage politique, lorsqu'il n'y a pas l'engagement politique, lorsqu'il n'y a pas la volonté, lorsqu'il n'y a pas l'adhésion de toutes les parties prenantes. Nous souhaitons et nous voulons que les autorités considèrent que ce projet, ce n'est pas un projet de la Banque mondiale, c'est leur projet. Et les résultats auxquels on peut parvenir dépend de l'engagement politique. Si nous voulons demain atteindre les résultats, nous devons tous regarder dans la même direction et décider ensemble de faire atteindre ces projets les résultats par rapport au cadre des résultats. Aucun résultat ne peut être atteint lorsque la volonté politique est défaillante.
Messieurs Godefroy Misenga Milabio, je vous remercie.
Je vous remercie, madame.
Voilà, notre invité était avec Florence Kizalunga, 15h20 ici à Kinshasa. C'est la fin de ce journal coordonné par Élisée Chikota et supervisé par Martin Sebujangwe. La mise en onde assurée par Alain Goy et grâce à Mzati à la présentation. Merci.